Nous aimerions te remercier pour avoir accueilli favorablement, Seigneur, l'expression de nos sentiments, nos chants, nos cantiques. Tu as été attentif, ô Dieu, aux cris de nos cœurs. Tu as été attentif, Seigneur, à l'attitude de nos âmes. Et merci de ce que nos prières sont montées vers toi comme une offrande, Seigneur, digne de toi. Une offrande, Seigneur, d'agréable odeur. Aide-nous, ô Dieu, à réaliser combien passer du temps avec toi est la chose la plus extraordinaire qui soit. Nous ne pouvons accomplir notre raison d'être ici-bas, notre raison de vivre, Seigneur, que dans la mesure où nous demeurons dans ta présence, dans la mesure où nous te servons d'abord et avant tout, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, dans la mesure où nous t'exprimons, ô Dieu, nos sentiments de reconnaissance pour tout ce que tu es pour nous, mais également pour tous ces bienfaits innombrables que tu ne cesses de nous accorder. Merci pour tout. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Seigneur, que nous aimerions maintenant passer à tes pieds à recevoir ta parole. Parle-nous. Seigneur, dépose sur nos cœurs ta pensée et que cette pensée puisse trouver, Seigneur, de cœur bien disposé pour la mettre en pratique. Nous voulons te ressembler en tout et c'est du reste, Seigneur, le but suprême de la vie chrétienne. Et pour cela, nous devons apprendre, Seigneur, ô Dieu, à obéir à ta parole. Aussitôt que tu nous parles, Seigneur, que nous nous lévions pour obéir, pour mettre en pratique ta parole. Bénis ton serviteur, assiste-le dans cette tâche ô combien difficile qui consiste, Seigneur, à parler, à s'adresser à tes brebis, à ces âmes pour lesquelles tu es mort, ces brebis qui ont un prix inestimable. Aide-nous, Seigneur, à servir un repas digne de toi à ton peuple ici présent, mais également tous ceux qui nous suivent, Seigneur, via la radio Parole Éternelle ou via différentes, Seigneur, différentes chaînes de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Oui, parle-nous, fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Bien, nous allons continuer et terminer, je l'espère, puisque le dimanche prochain, il faut absolument que nous démarrions notre série d'enseignements relatifs donc à l'Église de Jésus-Christ. Et nous allons continuer avec notre thème et terminer aujourd'hui notre thème, à savoir une vie de gloire en gloire. Je voudrais revenir une fois de plus pour qu'ensemble nous puissions voir et réaliser le genre de vie auquel le Seigneur nous appelle. Et donc, et cela est important. Nous ne pouvons pas aller de victoire en victoire, nous ne pouvons pas servir pleinement le Seigneur, mes amis, si nous ne comprenons pas quel est le genre de vie auquel le Seigneur nous destine. Une vie de gloire en gloire. Et le dimanche, il y a 2 semaines, puisque le dimanche dernier, c'était donc la Pentecôte, nous avions pris l'illustration d'une vie qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'Église du Christ, à savoir la vie de l'apôtre Paul. Et nous avons vu combien ce principe de transvasement, ce principe d'être vidé d'un vase dans un autre, a été présent dans la vie de l'apôtre. Et aujourd'hui, nous allons revenir et terminer avec la vie de cet homme, à savoir Saul de Tarse, qui, après sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas, deviendra l'apôtre Paul. Nous lisons, ou nous allons relire, le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, les 20 premiers versets, très rapidement, pour mieux comprendre la vie de cet homme et sa rencontre singulière et glorieuse avec le Seigneur, là, sur la route de Damas, alors qu'il respirait la haine contre les disciples du Christ, alors qu'il était déterminé d'aller les persécuter, d'aller les punir pour avoir commis un crime à ses yeux, d'abandonner le judaïsme pour se tourner vers le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Acte chapitre 9, à partir du verset 1er, nous lisons « Cependant, Cependant Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il souffrira pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Amen. Quelle volte-face extraordinaire! Quel virage à plus de 180 degrés! L'homme qui respirait le meurtre, qui respirait la haine, mes amis, contre les disciples du Seigneur, le voilà en train de s'adresser à ses frères juifs et leur proclamant que Jésus est vraiment le Messie, vraiment le Fils de Dieu. Amen. Nous sommes donc en train de voir depuis plusieurs dimanches le genre de vie auquel le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à une vie qui va crescendo, à une vie qui va de gloire en gloire, à une vie qui va de victoire en victoire, d'élévation en élévation, selon les standards du royaume. Et quel est ce genre de vie? Nous l'avons vu à partir de Moab. C'est donc une vie qui est marquée par le transvasement. C'est donc une vie qui nous amène à aller de vase en vase, à être vidé de vase en vase, afin de ressembler à Jésus et à Jésus seul, le modèle par excellence. Alléluia. Et tout ce que Dieu est appelé à faire dans notre vie, mes amis, aura pour objectif ultime nous faire ressembler à Jésus. Il est donc important que nous ne l'oublions jamais. Le Seigneur nous appelle d'abord et avant tout à être de véritables citoyens de son royaume, à être des hommes et des femmes qui grandissent dans leur marche avec lui, en lui ressemblant de jour en jour. Et gloire au Seigneur. Et en analysant la vie de l'apôtre Paul, en regardant autour et alentour de la vie de cet homme, nous pouvons voir comment ce principe de transvasement a été présent, comment ce principe, cette opération divine qui nous amène de passer d'une étape à une autre, qui nous amène, mes amis, à quitter un vase pour un autre vase. Et à chaque fois que nous quittons, cela fait mal, car c'est un déracinement. Eh bien, comment cet homme, passant par toutes ces étapes de transvasement, va de plus en plus ressembler à Jésus-Christ. Cet homme, contrairement à vous et moi, qui en vont rencontrer le Seigneur simplement, eh bien lui, il a eu une rencontre extraordinaire, une rencontre plus que glorieuse. Là, sur le chemin de Damas, cet homme, alors qu'il reposait sur sa lie, comme Moab, cet homme qui était tranquille dans sa religiosité, cet homme qui reposait sur le prestige de sa lignée, cet homme qui pouvait se vanter d'être né d'Hébreu, fils d'Hébreu, etc., cet homme qui reposait sur sa lit va donc changer du tout au tout lorsque le Christ fait irruption dans sa vie, là, sur le chemin de Damas. À partir de ce moment-là, à partir de cette rencontre de Jésus, eh bien, nous voyons que le Seigneur va conduire son disciple, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Il va le conduire à travers toutes sortes d'épreuves. Il va le faire passer par toutes sortes, mes amis, de déserts. Cet homme va connaître toutes sortes d'abîmes. Il va être exposé à toutes sortes de persécutions, non pas que Dieu, quelque part, aurait été satisfait de voir Paul souffrir. Non, Dieu n'est pas sadique, pas du tout. Mais c'était le chemin qu'il devait, par lequel il devait passer absolument pour ressembler à Jésus de Nazareth. Alléluia. Cet homme, en effet, va connaître, va expérimenter le transvasement jusqu'à la fin de ce jour. Il va être vidé d'un vase dans un autre. Il va aller de brisement en brisement, de faiblesse en faiblesse, d'épreuve en épreuve, jusqu'à la fin de sa vie ici-bas. Et à la fin de sa vie, nous le retrouvons en prison, quelque part à Rome. Lui qui avait rencontré le Seigneur de manière glorieuse, lui qui avait fait tant d'expériences avec Christ, qui avait une connaissance extraordinaire du Seigneur, regardez mes amis comment il a fini. C'est donc à juste titre qu'il dira plus tard, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. » Gloire à Dieu. Cet homme qui est passé par toutes sortes de phases de brisement, qui a connu toutes sortes d'épreuves, qui a été vidé d'un vase dans un autre, écrira plus tard aux Galates, Galates 2, verset 11, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le but suprême de la marche avec Christ. Il faut que Jésus finisse par devenir l'hôte suprême dans notre existence. Il faut que nous arrivions à dire avec l'apôtre, « Je suis crucifié, ce n'est plus moi qui vis. » Fini cet homme autrefois colérique, méchant, cet homme autrefois immoral, cet homme autrefois ou cette femme autrefois idolâtre qui collectionnait les maris d'autrui. Fini. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul. Comme je l'ai souligné, cet homme aura marqué à tout jamais les annales de l'histoire de l'Église. Il aura été un grand champion de la foi chrétienne. Revenons un tout petit peu en arrière. Allons à sa rencontre ce jour-là à Jérusalem. Cet homme, comme je disais, respirant la haine, la méchanceté à l'égard du Christ, des disciples du Christ, va trouver le souverain sacrificateur, le grand prêtre, pour lui demander des lettres. Des lettres dont il avait besoin afin d'aller à Damas chercher tout ce juif qui avait osé, au sacrilège à ses yeux, de se détourner de la loi de Moïse, de tourner le dos au judaïsme pour se jeter dans les bras du Messie Jésus, aller les chercher afin qu'ils soient jugés et punis. Pour eux, c'était un crime abominable. Voyez-vous, et le voilà qui reçoit des lettres. Le chemin faisant, alors qu'il approchait de Damas, quelque chose d'inattendu va se passer. Voilà que le Seigneur lui apparaît. Tout à coup, soudainement, une lumière venant du ciel, mes amis, resplendit autour de lui. L'homme tombe de sa monture. Et là, par terre, il entend une voix qu'il appelle en araméen. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » L'homme est désemparé. L'homme est désorienté. Il voit une lumière qui brille plus que toutes les étoiles de l'univers. Il ne voit rien. Cette lumière l'a ébloui. Cette lumière l'a aveuglé. Mais il peut entendre la voix. Et là, complètement désemparé, complètement désarçonné, mes amis, désorienté, il demande, mais qui es-tu, Seigneur ? Et là, le Seigneur lui répond, et je suis Jésus, alléluia, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Pouvait-il s'imaginer que ce qu'il faisait à l'église, il le faisait directement à son chef, le chef de l'église ? J'en parlerai, mes amis. Toute attitude abominable envers l'église du Christ est une attitude abominable à Christ lui-même. Bénir l'église, c'est s'attirer les faveurs du Seigneur. Travailler pour la destruction de l'église, c'est signer sa propre mort. Car il a dit, je bâtirai mon église. Et rien, et je pourrais ajouter, absolument rien, ne pourra prévaloir contre elle. Même pas les portes du Hadès. Voyez-vous, qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il ajoute, il serait dur de régimber contre les aiguillons. Comme je l'ai expliqué la fois dernière, régimber contre les aiguillons était une expression proverbiale courante chez les Grecs. Il l'utilisait pour désigner toute résistance à un ordre quelconque. Voyez ? Et le Seigneur lui dit cela. Mes amis, cette rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas va marquer à tout jamais la vie de cet homme. Eh oui, la rencontre de Jésus est l'unique rencontre, la rencontre singulière qui seule a la capacité de briser une vie et de la séparer en deux. Quand on rencontre le Seigneur, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a désormais un avant et désormais un après, alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc il n'a plus rien à voir avec l'ancienne créature qu'il était. Et toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour Saul de Tarse, il va en être ainsi. Il va y avoir désormais un avant, mais aussi un après. Un avant, nous l'avons vu. Lui-même nous dresse le portrait de sa vie avant la rencontre avec Christ. Une sorte d'autoportrait. Il se vante, et comme je le disais, sa vie passée était la lie. Vous voyez les dépôts qu'on trouve dans les boissons fermentées, vous rappelez, hein? Je parlais de ça plus d'une fois. Que ce soit dans le vin ou dans la bière, il y a toujours un dépôt des résidus dans le fond. C'est ce qu'on appelle la lie. Eh bien, cet homme reposait comme Moab sur sa lie. Et il va décrire lui-même quelle était la nature de cette lie. En d'autres mots, quels étaient les éléments constitutifs de sa lie. Eh bien, il est dit dans Philippiens 3, 4 à 6, nous l'avons vu. Il se vante d'être circoncis le huitième jour. Formidable. Comme pour dire, je ne suis pas comme le reste des païens, des incirconcis, des impurs. Moi, selon l'ordre de Yahvé, j'ai été circoncis le huitième jour. Je suis de la race d'Israël, membre du peuple de Dieu. Je n'appartiens pas à telle ou telle autre nation. Non, non. J'appartiens, mes amis, au peuple avec qui le Seigneur, le Dieu de gloire, le Créateur de toutes choses, avait conclu une alliance. Ce peuple qu'il avait délivré d'Égypte, de la servitude égyptienne. Oui, je suis de la race d'Israël. Il continue. Je suis de la tribu de Benjamin. C'est la tribu qui avait donné le premier roi Israël, à savoir Saül, dont il y avait de quoi se vanter. Il dit, je suis hébreu, né d'hébreu, donc je ne suis pas un sang mêlé. Je ne suis pas un hybride. Non, ma mère, une juive, hébreu. Mon père, un juif, hébreu. De la descendance d'Abraham, de cet homme à qui Dieu avait donné la promesse. Il avait dit, je te susciterai un peuple nombreux. Comme pour dire, je suis l'accomplissement, un des accomplissements de la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Quant à la loi, oh, il se vante, pharisiens, c'était des gens qui menaient une vie de stricte observation de la loi. Ils observaient. D'ailleurs, ils allaient même au-delà de ce que Moïse avait dit. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Voyez-vous? Ailleurs, il va même souligner qu'il a étudié à Jérusalem. Oh, formidable! À Jérusalem, au pied de Gamaliel, le professeur juif, mes amis, le plus connu de son temps. Formidable, hein? Je lisais encore hier le classement des meilleures universités au monde. Bon, c'est pas étonnant, je n'ai pas vu les nôtres. Hein? Dommage. Je regardais où là, moi, j'ai étudié, et tout ça, les universités belges, il y en a qui figurent. En tête, la KUL. Donc, l'Université catholique de Leuven, voyez-vous, et puis Lucerne, et puis l'Université de Gand. Enfin, bref, je vous passe le détail. Et lui s'en vante. J'ai étudié à Jérusalem, au pied de Gamaliel. C'était une référence, mes amis, intellectuelle, morale, à cet homme. Quel portrait il dresse de sa vie autrefois. Avec tout ceci, l'homme avait de quoi être fier. Fier de son héritage culturel, de son héritage religieux et intellectuel. Avec tout ça, il y avait de quoi être arrogant. Je ne suis pas comme le reste de l'humanité. Être fier, orgueilleux. Il pouvait donc s'appuyer sur le prestige de sa lignée, reposer sur les traditions de ses pères et sur sa moralité. Cet homme pouvait croire, avec toutes ces descriptions qu'il nous donne dans Philippiens chapitre 3, il pouvait donc croire être au-dessus, être supérieur aux autres hommes, oui ou non. Voilà, mes amis, les éléments qui constituaient sa lie. L'arrogance, l'orgueil, la mort, la hauteur, l'outrance, comme Moab. Vous voyez? Et à cause de ces éléments qui constituaient sa lie, eh bien, la vie de Paul avait, aux yeux de Dieu, un goût amer et une odeur écœurante, insupportable, nauséabonde. En d'autres mots, son caractère et sa personnalité étaient aux antipodes de ce que Dieu attendait de lui. Voilà ce qu'était Paul avant. Et puis, la rencontre sur la route de Damas. Et là, il y a un après. Gloire au Seigneur, alléluia. Avec cette rencontre glorieuse avec le Christ ressuscité, toute son existence est chamboulée. Comme je l'ai souligné, désorienté. Il tombe. Lui, l'homme qui conduisait toute une délégation, il était à la tête. Il était imbu de lui-même. Il était sûr de l'autorité que le souverain sacrificateur lui avait donnée en lui donnant des lettres qui lui permettaient d'aller arrêter tous ces juifs égarés, tous ceux qui abandonnaient le judaïsme. Et là, avec la rencontre, l'homme tombe. Et de cette rencontre, mes amis, Paul en sort profondément bouleversé et définitivement persuadé, et ce jusqu'à la fin de sa vie, que celui dont il persécutait les disciples était vraiment le Fils de Dieu, le Messie attendu par Israël, celui qui accorde le pardon, mais aussi la vie éternelle. Et tout au long de sa vie, il va se battre, mes amis, pour prêcher ce message, non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Et là, ne voyant plus rien, il perd la vue. Il est complètement ébloui. Ce sont les autres, ceux qu'il dirigeait, qui maintenant, eh bien, le tiennent par la main pour le faire entrer à Damas. Quelle humiliation! Vous voyez, mes amis, il le faut entrer à Damas. Ensuite, il reste 3 jours sans manger. Il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Il y avait de quoi, en effet. 3 jours, il ne mange rien. Il est complètement aveugle, alors même qu'il a les yeux ouverts. Jusqu'à ce que le Seigneur parle à Ananias dans une vision et lui demande d'aller sur la rue, appeler la droite chez un certain Judas pour aller prier pour un certain Saul de Tarse. Ananias va trouver des excuses. « Oh Seigneur, je veux bien, mais j'ai entendu pas mal de choses concernant cet homme, combien il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur va dire à Ananias, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, « Va, car cet homme est pour moi un instrument ou un vase, c'est le même terme, skeios, pour ceux qui notent en grec, est un vase de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. » Et le Seigneur ajoute, et j'ai fait exprès en lisant le passage, de m'attarder sur ce verset 16, « Et je lui montrerai, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour... » Le Seigneur montre déjà son plan. Voilà. Par où il allait passer. Et jusqu'à la fin de sa vie. Ananias obéit. Ananias va prier pour Saul de Tarse. Des choses qui ressemblent à des écailles tombent de ses yeux. Il voit enfin, il est rempli du Saint-Esprit, il est baptisé, alléluia, gloire à Dieu. Et de cette rencontre avec le Seigneur, Paul reçoit, écoutez bien, Paul reçoit de la part de Dieu des lettres de créance pour devenir ambassadeur pour lui, alléluia, ambassadeur pour Christ dans le monde. 2 Corinthiens 5, 20 nous le dit. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, et il ajoute, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il reçoit cette fois-ci des lettres de créance. cette fois-ci non pas de la part d'un homme, de la part de Dieu lui-même, pour devenir son ambassadeur ici-bas, pour être un représentant du royaume de Dieu. Et s'adressant aux Corinthiens, et par-delà les Corinthiens s'adressant à l'Église, donc à chacun de nous, il dit, nous sommes des ambassadeurs, alléluia. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Mais trop souvent nous oublions. Nous essayons de nous comporter dans ce monde comme si nous étions du monde. Non, mon frère, non, ma sœur. De par ta position en Christ, le fait d'appartenir à Jésus, tu es son ambassadeur ici-bas. Il a reçu des lettres de créance. Et ce qui est formidable, c'est qu'au verset 20 de acte 9, nous voyons tout de suite Paul qui assume sa vocation d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Et parmi les siens, c'est-à-dire parmi les Juifs, qu'il nous dit le verset 20, et aussitôt, Paul se mit à prêcher une nouvelle religion. Répondez-moi. Une nouvelle religion, une nouvelle moralité, une nouvelle idéologie. Il se mit à prêcher qui? Il prêche une personne, alléluia, dans les synagogues, en disant quoi? Que c'était le, désormais, il est revêtu de l'onction d'ambassadeur. Il a reçu les lettres de créance. Rappelez-vous, autrefois, en partant de Jérusalem, il avait reçu des lettres de la part du grand souverain sacrificateur, des lettres pour aller semer la mort, oui ou non, des lettres pour persécuter l'Église, pour semer la mort. Après sa rencontre, cette fois-ci, il reçoit des lettres de créance pour semer la vie. Oh, alléluia! Gloire à Dieu! Pour apporter la vie. À partir de sa rencontre avec le Seigneur, eh bien, la dynamique de transvasement va se déclencher, va se mettre en marche. C'est ainsi qu'au verset 15 et 16, quand le Seigneur se révèle à Ananias dans une vision, il lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. » Ou un vase de choix, et je lui montrerai combien il souffrira pour mon nom. Le mot traduit par instrument, non seulement dans ce passage, mais aussi dans d'autres passages, nous en verrons juste deux, c'est le terme grec skeios, qui veut dire aussi vase, un vase. Le Seigneur dit, cet homme est un vase que je vais utiliser. En d'autres mots, un vase que je vais remplir de ma vie. Mais ce vase-là, quand le Seigneur se révèle à lui, il y a dans le fond du vase toutes sortes de lits, toutes sortes de saletés, toutes sortes d'impuretés. Alors ce vase ne pouvait pas du jour au lendemain devenir un vase d'honneur pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi ce vase devait passer par toutes sortes d'opérations de transvasement. Alléluia. Dans Romains 9, versets 21-23, c'est le même mot, skeios, où l'apôtre dit ceci, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris ?» C'est le même mot, skeios. Il était un vase de choix. Dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21, il nous est dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, est propre à toute œuvre bonne. Eh bien, c'est le même mot. C'est le même mot que nous trouvons là. Cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant Israël, devant les nations, devant le roi. Et donc, c'était un vase qui devait aller de brisement en brisement. Lui, le vase choisi, eh bien, est destiné, quand le Seigneur dit, je lui montrerai combien il souffrira à cause de mon nom, eh bien, nous voyons que ce vase de choix est destiné à aller de vase en vase, vidé d'un vase dans un autre. Et à chaque fois qu'on est vidé dans un autre vase, à chaque fois, nous sommes débarrassés des impuretés, des scories, des souillures. Et puis nous continuons. Et puis ensuite, le Seigneur permet que nous soyons de nouveau versés dans un autre vase. C'est cela, aller de gloire en gloire. Ce n'est pas comme on nous le fait entendre un peu partout, on nous rabâche les oreilles de gloire en gloire, ça veut dire beaucoup d'argent, ça veut dire connaître une vie où il n'y a pas de preuves. Ça, ce n'est pas l'évangile du Christ. L'épreuve, encore une fois, fait partie de la réalité de notre marche avec Christ. Gloire à Dieu. Si tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu marches avec lui. Car on ne peut pas rencontrer quelqu'un avec qui on marche. On ne peut rencontrer que celui qui vient dans le sens opposé. Et quand on est avec Christ, quand on est décidé à marcher avec lui, mes amis, tôt ou tard, nous finissons toujours par passer par des moments d'épreuve. Oui, Paul, ce vase choisi, va connaître toutes sortes de brisements tout au long de sa vie. Va aller de faiblesse en faiblesse, jusqu'à ce qu'il proclame haut et fort, « Je suis crucifié avec Christ, nous l'avons vu, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et encore dans Philippiens, chapitre 1, verset 21, il dit, « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Littéralement, c'est ce qu'il dit, « Vivre, il dit pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir est un gain. » Vivre, c'est Christ. Comment voulez-vous que Christ vive en nous, mes amis, si nos mois ne sont pas brisés? Et comment voulez-vous que nos mois soient brisés si nous ne passons pas par des moments d'épreuve, des moments de persécution? Nous ne pouvons expérimenter la réalité de ce que Paul dit. Pour moi, vivre, c'est Christ, mourir est un gain. Que dans la mesure où nous mourrons à nous-mêmes. Voilà pourquoi le transvasement est vital, est important pour chacun de nous. Dans la mesure où nous passons par le processus de transvasement, qui consiste donc à nous amener de brisement en brisement, d'épreuve en épreuve, car c'est dans la mesure où nous mourrons à nous-mêmes qu'alors Christ deviendra notre vie. Mais si nous sommes imbus de nous-mêmes, si nous ne rencontrons pas les épreuves, mes amis, nous risquons de passer à côté du plan de Dieu. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous passons par cette opération de transvasement, nous pourrions leur dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et vous aurez remarqué que ce processus de transvasement a commencé dans la vie de Paul dès sa rencontre avec Jésus. Regardez, première épreuve. Il se révèle à lui, mais il ne lui envoie pas de chevaux. Il ne lui envoie pas des anges. Il dit, voilà, ok, tu vas devenir mon serviteur. Tu vas devenir le serviteur du roi des rois. N'est-ce pas? Allez, j'ai touché un officier romain, il va t'envoyer des chevaux, et puis tu vas entrer dans Damas, cette fois-ci avec mon nom. Tout le monde saura que c'est désormais Saul de Tarse qui prêche l'évangile. Pas du tout. Première épreuve, il est entré dans Damas complètement brisé, conduit par la main par ce compagnon. Ceux qu'il dirigeait, Ce sont ceux maintenant qui le dirigent. Désormais, sa vie dépendait d'eux, oui ou non. Imaginez-vous un peu, si ces gens s'étaient regardés, disant, ah, lui, il a toujours été dur avec nous. Voilà. Hein, Clément, tu vois ça? Hein? Et entre-temps, lui est là, vous êtes tout Clément. Clément, Jules, Constantin. Oui, mais attends un peu. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Tiens, tenez-moi par la main. Voyez-vous? Si c'était dit ça, eh ben, il serait resté en train de tourner. C'est vrai que le Seigneur aurait trouvé une autre solution. Mais enfin, le voilà. L'homme imbu de lui-même. L'homme à qui on avait remis les lettres par la haute autorité juive. L'homme qui était à la tête d'une grande délégation. Avec une mission claire, nette. L'homme qui conduisait la délégation, cette fois-ci, celui qui est conduit. Premier brisement. Première épreuve. Premier transvasement. Le moi est en train de mourir. Et le Seigneur, quelque part, lui dit, voilà comment, désormais, tu n'auras plus la commande de ta vie. C'est moi qui te dirigerai. Deuxième épreuve. Tout se passe bien, on prie pour lui, il recouvre la vue, il est baptisé, il est rempli du Saint-Esprit, il se met à prêcher, il commence tout de suite à assumer son rôle d'ambassadeur pour Christ, gloire à Dieu. Mais, tout de suite, deuxième épreuve, la persécution. Les gens vont comploter, vont conspirer pour le tuer. Et là, les disciples qui étaient à Damas, on préparait un plan pour le faire partir de nuit. Comment ça? Eh bien, ils vont le mettre dans une corbeille, on en a parlé, hein. L'apôtre Paul, dans un panier, comme une petite chèvre, comme un lapin, non pas par la grande porte de Damas, où tout le monde l'aurait vu, non, la nuit, dans le calme, dans la peur, dans la crainte, lui, Paul, là, courbé sur lui-même, peut-être dans un premier délire, tout doucement, tout doucement. Et les autres, tenant la corde et faisant descendre tout doucement cette corbeille, ce panier, jusqu'à ce que Paul se retrouve au pied de la muraille, de l'enceinte de la ville, et puis de partir. Deuxième humiliation. Regardez comment il part. Eh bien, tout au long de sa vie, cet homme va connaître les transvasements. Et le passage de 2 Corinthiens 11, j'aimerais qu'on le lise très rapidement avant de terminer, est un résumé, une sorte d'épitomé, excusez-moi d'utiliser ce terme technique, un résumé des souffrances de Paul. Regardez. Sont-ils serviteurs de Christ? Il est en train d'interpeller un peu tous ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces pseudo-apôtres qui se vantaient et tout ça, et qui quelquefois le méprisaient. Voilà ce qu'il dit. Sont-ils serviteurs du Christ? Je le suis plus encore. Comment était-il serviteur? Regardez, par les travaux. Bien plus. Par les emprisonnements. Ah, il a connu les emprisonnements, hein? Bien plus. Par les coups. Bien davantage. Souvent en danger de mort. Lui, hein? Lui qui a vu Jésus. 5 fois j'ai reçu de Juifs, 40 coups moins 1. Oh, nous, aujourd'hui, oh, non, il n'est pas serviteur de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Attention. J'ai reçu 40 coups moins 1. Pourquoi 40 coups moins 1? Il faut savoir que dans la loi de Moïse, Deutéronome 25, 2 en 3, la loi de Moïse fixait à 40 coups. Voyez, les peines corporelles maximales. 40. Alors, pour être sûr pour être sûr, pour être certain de ne pas dépasser 40 coups, parce qu'il fallait observer la loi de manière stricte, les Juifs prirent donc l'habitude de s'arrêter à 39. Comme ça, si jamais ils s'étaient trompés dans la manière de compter, qu'ils n'aillent pas au-delà de 40. Vous voyez comment ils observaient la loi. Alors, Paul précise, hein, j'ai reçu 40 coups moins 1. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Serviteur de Dieu, hein, rempli du Saint-Esprit, connaissant les Écritures mieux que vous et moi, avec une foi extraordinaire. Mais regardez, cela ne l'a pas mis à l'abri des épreuves. Trois fois, j'ai été lapidé. Voyez-vous, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, et continue, souvent en voyage, et voyage à pied, si vous lisez ça en grec, à pied. Voilà. Oui, il aurait pu dire, Seigneur, il y a des riches dans cette ville, touche-le, qu'il m'envoie trois mulets, moi je suis ton serviteur, comment puis-je aller comme ça? Je suis le serviteur du roi des rois. Amen. Non, il est dit, hein? Souvent en voyage à pied, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville. Oui, il devait y avoir des colonnes à l'époque un peu partout, hein? Au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Il continue. Au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif. Oh, il n'a pas la foi. Il n'a pas mangé hier. Oh, nous devons prier pour lui. Frère, il faut intercéder. Frère, il faut... Attention, mes amis. L'homme qui parle est un héros de la foi chrétienne. Souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Il continue. Sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Vous voyez, mes amis, voilà, ça résume toute la vie de l'apôtre. C'est donc cet homme brisé, cet homme affaibli par l'opération de transvasement qui s'est manifestée par tout ce que nous venons de voir, c'est donc cet homme qui dira plus tard aux Corinthiens, et par-delà les Corinthiens qui dira plus tard à tous les disciples de Jésus, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Mes amis, Dieu donne la force, sa force et sa puissance à ses enfants, qui sont brisés, qui sont éprouvés, qui passent par toutes sortes d'épreuves, des moments difficiles, ceux qui acceptent d'être vidés d'un vase dans un autre. Romains 8, 17 le dit. Or, si nous sommes enfants, évidemment enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah, ça ne s'arrête pas là, hein. Ah, nous sommes co-héritiers de Christ, c'est bien, mais regardez ce qui suit. Si toutefois, lisez avec moi, si toutefois, la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychologique, à cause de la privation, à cause peut-être d'une infirmité dans le corps, à cause, je ne sais, du chômage, je ne sais quoi. Vous voyez, mes amis, c'est en souffrant avec lui qu'alors nous pourrions régner avec lui, dit un autre passage. Voilà la grande leçon que l'apôtre Paul a reçue de Jésus en traversant tous ces moments d'épreuves et de persécutions. C'est ainsi que lui-même résume, et nous allons terminer par là. Et Jésus m'a dit, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, et il m'a dit, à travers toutes ces épreuves, ma grâce te suffit. Ma grâce, ne pleure pas, ma sœur. Encore ce matin, tu t'es posé des questions. Comment expliquer cette privation? Seigneur, je marche avec toi. Comment expliquer cela? Mon frère, courage! Tu traînes dans ce trou noir. Tu as l'impression d'être constamment dans cette caserne ou caverne de souffrance, de pleurs, de larmes, d'humiliation. Seigneur, jusqu'à quand? La réponse est là. Ma grâce, car, ajoute le Seigneur, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai, dit Paul, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ se repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faibles. Je n'ai personne. Je traîne avec mes dossiers. Je n'ai personne pour me recommander. Je suis là. Je suis dans mes faiblesses. Tout matériellement, je suis faible de faire face à ceci ou à cela. Mais l'apôtre Paul dit, si tu es dans ce cas et que tu marches avec Dieu, réjouis-toi. Car cette épreuve est pour ton bien. Le moment venu, Dieu te visitera. Dans les outrages, dans les insultes, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Oh, ne sois pas angoissé. Oh non, un enfant de Dieu. Oh là là, frère, tu n'as pas de foi. Celui qui parle là, il a la foi. Il a été confronté aussi à des angoisses. Hein? Voyez-vous? Tout cela pour Christ. En effet, termine-t-il, quand je suis faible, c'est alors que je suis, parce que ma faiblesse m'amène à me reposer sur le Seigneur. Et quand je me repose sur lui, alors je deviens fort. L'ennemi ne peut pas me bouger. Personne ne peut me bouger. Je vais avancer malgré la tempête, car lui est avec moi, car lui est aux commandes. Gloire à Dieu. En nous appelant lui, et ensuite nous allons prier, en nous appelant lui, le Seigneur ne nous a pas mis, mes amis, sur une autoroute bien asphaltée, bien éclairée, une autoroute qui va toujours en ligne droite. Pas du tout. En nous appelant lui, mes amis, comme pour Paul, il ne l'avait pas mis sur une autoroute bien éclairée en disant, Paul, voilà, tu n'as qu'à mettre plein gaz. Non. En nous appelant lui, le Seigneur nous met sur une route rocailleuse, où il y a des épines, où il y a des ronces, où il y a des chardons. Une route avec beaucoup de tournants, beaucoup de virages, qu'il faudra négocier avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'humilité. Quand tu dois négocier un virage, tu ne dis pas au virage, toi tu sais combien de temps je conduis moi, j'ai commencé à conduire à 74, tu accélères. Non, le virage aura raison de toi. Quand tu arrives dans le virage, ou dans un tournant, voyez-vous, et qu'à côté il y a des ravins, eh bien, tu vas négocier avec humilité. Tu vas ralentir. Tu vas redoubler de vigilance, n'est-ce pas? Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il nous a mis sur une route sinueuse. Alors, n'oublions pas que tous ceux qui sont appelés en Jésus-Christ connaîtront des tribulations. Mais prenez courage. Le Seigneur a vaincu. En son nom, vous vaincrez. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons...